Salut, moi c'est Jérôme Vermelin et vous écoutez Les gens qui lisent sont plus heureux. Et si, à l'heure où les réseaux sociaux vampirisent nos cerveaux, prendre le temps d'ouvrir un livre était devenu un acte de résistance? Ce podcast, c'est celui des passionnés de lecture, sous toutes ses formes, sans préjugés. Dans cet épisode, mon invité est l'écrivain français Romain Puertolas.
La vie réelle ne me satisfait pas à 100%. J'ai besoin de la vie que je trouve dans la littérature. J'ai besoin d'être quelqu'un d'autre. J'ai besoin de vivre ailleurs. J'ai besoin qu'il m'arrive des choses insensées, qu'il m'arrive des choses qui ne m'arriveraient pas dans la vie normale. Et c'est de là que vient cette vie parallèle qu'est la lecture.
Romain Puertolas, c'est un écrivain aussi charmeur qu'iconoclaste. En 2013, ce lieutenant de police originaire de Montpellier est devenu mondialement célèbre grâce à son deuxième roman, L'extraordinaire voyage du fakir, qui était resté coincé dans une armoire Ikea. Un immense succès, drôle et spirituel, qui a été adapté au cinéma l'an dernier. 5 romans plus tard, Romain est de retour avec La police des fleurs, des arbres et des forêts. Un roman policier à l'atmosphère aussi intrigante que décalée, dont je suis allé m'entretenir avec son auteur dans les bureaux de sa nouvelle maison d'édition, Albin Michel. L'occasion d'en savoir plus sur un personnage dont la biographie, disponible sur son site internet, me paraissait un peu farfelue. En réalité, j'étais loin du compte.
Romain Puertolas, bonjour.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Très bien, oui.
On est chez votre éditeur, Albin Michel.
Oui.
Ça fait combien de temps que vous êtes chez eux, dans cette belle maison ?
Ça fait pas très longtemps, puisque c'est mon premier roman chez Albin Michel.
C'est bien de changer d'éditeur ?
Ben, c'est bien de changer d'éditeur. Oui. Dans ma vie, j'ai beaucoup changé de tout. Hein.
Ouais.
Je suis quelqu'un qui change énormément, autant d'opinions que d'endroits où je vis. J'ai déménagé 39 fois dans ma vie, j'ai 43 ans.
Ouais. Je crois que c'était 31, mais ça c'était dans la bio avant, précédente.
Ouais. Et puis j'ai changé énormément de travail aussi. Donc voilà, donc peut-être dans la logique, le fait de changer d'éditeur.
Vous avez un peu la bougeotte.
Oui, j'ai toujours été très curieux, très curieux, comme on dit, les fesses entre deux chaises. Parce que, en fait, j'ai toujours pensé qu'on n'avait qu'une seule vie, et donc il faut faire le maximum de choses dans une vie. C'est ma manière à moi de tromper un petit peu ça et d'avoir plusieurs vies dans une vie.
Voilà. Tu ne veux pas dire que vous êtes hyperactif, hein, pour autant ? Si, un peu.
Je sais pas, c'est un peu bizarre. On pourrait croire que je suis hyperactif. Je fais plusieurs choses à la fois. Où je fais des choses, par exemple, je lis pendant un quart d'heure et puis hop, je me lève, je fais autre chose et puis hop, je fais autre chose. Mais je suis pas je suis pas hyperactif en ce sens que je peux avoir une grande concentration qui peut durer une heure, deux heures. Et en plus, par exemple, je peux lire ou je peux penser ou je peux étudier dans des endroits qui sont des endroits infernaux pour certains. Par exemple, une salle de jeu avec des machines à sous et tout ça, j'ai déjà fait ça. J'ai étudié un concours en Angleterre alors que j'étais nettoyeur de machines à sous. Et autour de moi, il n'y avait que des trucs qui faisaient... Et c'était que ça toute la journée. J'étudiais quand même pour le concours. Donc je peux me concentrer dans le bruit.
On en revient au mythe du fakir qui a été écrit dans le métro sur un téléphone portable.
Exactement, donc vous voyez.
C'est vrai de vrai. Pour les gens qui connaissent ça, on va pas la faire longue, mais si on la fait courte, ça s'est vraiment passé comme ça, votre premier grand succès.
Ouais.
Vous l'avez écrit comme ça, dans le lieu le pire pour écrire.
Ouais, dans un wagon bondé, on va dire, c'était toujours bondé hein, le matin, pour aller au travail, sur mon téléphone portable, debout donc, avec une main qui tient la rampe, là, et puis l'autre qui écrit un roman. Donc, vous voyez, on voit là bien le fait que je peux me concentrer dans des endroits qui sont totalement inédits, parce que généralement, les écrivains écrivent dans la tranquillité la plus totale. Il y en a qui partent dans des résidences pendant des mois pour écrire à la montagne, loin de tout. Moi, ce n'est pas mon cas, je peux écrire n'importe où.
Alors, le nouveau, il s'appelle « La police des fleurs, des arbres et des forêts ». Rien que son titre, c'est toute une histoire. Sa couverture va avec. On la décrira. Enfin, on est dans une campagne. Il y a des fleurs. Voilà, c'est pas forcément la couverture d'un livre policier. D'ailleurs, c'est pas tout à fait un livre policier. Celui-là, vous l'avez écrit où ? Et comment ?
Alors, celui-là, je l'ai écrit pour justement, c'est intéressant que vous posiez cette question, parce que je romps un petit peu avec tout ce que j'ai fait jusqu'avant, puisque avant, j'écrivais sur mon téléphone et tout. Alors que celui-là, je l'ai écrit à la main, sur un petit carnet. Et dans un endroit qui est un petit peu celui que j'ai mis dans le livre, j'étais en vacances à l'été 2018 dans un petit village qui s'appelle, à côté d'un village qui s'appelle Puertolas, justement, comme moi, comme mon nom de famille.
Ah non, ça c'est pas vrai, je peux pas vous croire. c'est vrai, il existe vraiment.
Il existe vraiment, ce village, exactement. Il est dans le nord de l'Espagne, au pied des Pyrénées.
D'accord.
Vous passez pas par là-bas, vous y allez, parce qu'il est en haut d'une colline. Et alors, c'est un village qui est très joli, mais qui est abandonné. J'ai entendu que deux maisons habitées. Vous savez, j'ai entendu la télé dans une maison. Et dans l'autre, j'ai vu que les pots de fleurs étaient bien entretenus. Donc, j'ai pensé qu'il y avait quelqu'un. Donc, deux maisons. Et le reste des Puertolas, car la majorité des gens s'appellent Puertolas dans ce village, sont au cimetière. Au cimetière, il y a beaucoup de Puertolas. Il y a plus de gens dans le cimetière que dans ce village. Et donc, je me suis inspiré de ce séjour d'une semaine dans la région. Pour le coup, c'est très exotique pour moi. Je suis quelqu'un de très citadin, de très urbain.
Ouais.
Et c'est très exotique, très dépaysant, la campagne. Et j'aime beaucoup ce côté campagne. Et c'est ce que j'ai essayé. J'ai retransmis l'atmosphère de la campagne dans ce livre. En 1961, en plus. Une époque dans laquelle...
Vous n'étiez pas né, puisque Romain, on est né en 75, tous les deux.
75.
Voilà, donc on n'a pas connu les années 60. Mais comment on s'y replonge dans les années 60? Est-ce que c'est parce que ce village, il est un peu hors du temps et qu'il n'a pas bougé depuis les années 60?
Ouais, mais c'est surtout pour le coup de théâtre final. Il y a un grand coup de théâtre à la fin et je ne pouvais que le faire à peu près dans ces années-là. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ces années-là. Mais ça a été merveilleux pour moi de me replonger, me plonger dans cette époque dans laquelle qui est si près, hein, 1961, ça fait, on dirait qu'il n'y a pas très longtemps. Et pourtant, il y a énormément de choses qui manquent à cette époque, je dirais des choses qui n'ont pas été inventées, qu'on ne connaît pas, enfin, qu'on connaît aujourd'hui, mais qu'on ne connaissait pas à l'époque. Et donc, c'était très intéressant de découvrir ce qui n'existait pas à l'époque. Donc voilà, un grand travail de recherche.
Je me suis dit que c'était peut-être vous qui parliez au début du livre, parce que dans votre bio officiel sur votre site, que je vais questionner un petit peu tout à l'heure, parce que ça m'intrigue, je dis que vous n'aimez pas les romans policiers. Et le roman, il commence par quelqu'un qui dit « Vous aimez les romans policiers ?» Je n'en lis pas. Alors, c'est quoi la vérité, Romain ?
Ben, la vérité, c'est que... Bon, j'aime les enquêtes, c'est le terme de roman policier peut-être qui me, voilà. Moi aussi, j'ai lu quand j'étais jeune, j'ai lu Agatha Christie énormément. Voilà, je suis policier, je suis capitaine de police. Et donc, ce que j'aime pas dans le roman policier, c'est ceux qui sont très sombres, très noirs, dans laquelle les policiers sont des vieux de la vieille,
un peu alcooliques, divorcés,
alcooliques. Ouais. J'ai un peu de mal avec cette image. Vous voyez, en plus c'est une image qui maintenant n'est plus d'actualité dans la police, puisque ça existait à l'époque. Hein, je vais pas le renier. Mais moi, à l'époque où je suis entré dans la police en 2009, ça existait plus. Il y a une espèce de nouvelle vague. La police est comme plus propre, on va dire, entre guillemets, mais voilà, de personnes plus heureuses, même si malheureusement le taux de suicide est toujours le plus important en France dans ce corps de métier. Mais bon, c'est vrai qu'on a les armes à disposition. Il y aurait peut-être plus de gens qui suicideraient dans la société s'ils avaient des armes à leur disposition, évidemment. Nous, en tant que policiers, on les a, c'est très facile. Mais voilà, j'aime pas trop cette vision-là. Alors moi, j'ai fait un policier rustique, on va dire, un thriller rustique, un policier champêtre. J'ai une vision très romantique, très surannée de la police, de l'enquête de police, en fait. Quelque chose avec un rythme un peu plus lent. On n'est pas dans le policier saute dessus, policier voyou. Non, on est dans un vieux policier, une vieille police de la vieille France, dans laquelle on va avoir tout le temps de prendre ce temps pour notre enquête. Et voilà, c'est ça que je voulais explorer, quelque chose de plus poétique. Mais on a vraiment un policier en ce sens qu'on a une vraie affaire criminelle. Et puis, c'est très réaliste dans ce sens que j'ai pris un exercice qui s'appelle l'articulation de procédure, qui est un exercice qu'on fait à l'école de police. Et je détaille bien pour le lecteur l'audition, la perquisition, tous les actes. Et il y a une procédure, parce qu'il envoie des lettres, c'est une relation épistolaire, il envoie des lettres à la procureure de la République, pour aviser le parquet.
Alors, il y a des lettres, mais du coup, il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas de téléphone portable. C'est merveilleux d'écrire une enquête policière sans tous ces outils actuels. Il n'y a même pas l'ADN dans les années 60. C'est presque très compliqué de se replonger dans une époque où on n'avait pas tous ces outils-là, non ?
Oui, mais en même temps, c'est merveilleux de pouvoir faire ça. Ça fait une petite pause, une petite respiration, vous savez, dans notre société où tout est très bruyant, tout va très vite, les réseaux sociaux, la télé, Internet, et puis comme vous dites, dans les enquêtes, bah, l'ADN, tout ça qui confond assez rapidement. Là, justement, c'est beaucoup plus intéressant. Comment va-t-on enquêter sans tout ça, sans ADN? Là, pour le coup, le pauvre inspecteur de police, il arrive, l'autopsie a déjà été réalisée.
Et le cadavre est déjà...
Il a même pas pu lui examiner le cadavre, ni rien, tout est déjà fait, hop hop, c'est emballé, il est déjà enterré. Et donc c'est beaucoup plus difficile comme ça, mais justement c'est beaucoup plus intéressant à la fois pour moi en tant qu'auteur de l'histoire et puis pour le lecteur aussi. Voilà. Je voulais vraiment un gros dépaysement en fait pour le lecteur.
Il y a un truc caractéristique chez vous depuis le début, c'est qu'il y a un sens de l'humour. Très très particulier, très 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 imagé, très littéraire, cinématographique aussi. Comment vous le décrivez cet humour-là? À une époque, on vous a comparé un peu votre travail au Monty Python. Enfin, ouais, il se nourrit de quoi cet humour? Et est-ce que vous êtes un mec drôle, qui a besoin de rire tout le temps?
Alors c'est marrant l'histoire du Monty Python, je m'en rappelle quand on comparait mes livres à Monty Python, alors que j'ai jamais regardé Monty Python.
C'est vrai.
Je n'aimais pas, ça m'a jamais. J'ai jamais compris l'humour de Monty Python. C'était peut-être un humour trop intellectuel pour moi. Moi, j'étais vraiment humour de base. C'était Benny Hill, c'était Louis de Funès.
Ah, le Benny Hill, oui, le dimanche soir à la télévision.
Voilà, ouais. Ça c'était vraiment mon grand truc. Ou Louis de Funès, il y a des films comme Rabbi Jacob, des films comme ça. Pour moi, c'était merveilleux. Plus houri, donc on va dire l'humour plus houri. Mais là, avec ce livre-là aussi, je crée une rupture à ce que je faisais avant, puisqu'avant, j'écrivais des livres qui étaient très burlesques, très fantasques, très, avec un humour qui était quand même un gros humour, qu'on voit un petit peu de loin peut-être. Et là, j'ai vraiment ciselé cet humour-là, je l'ai dosé énormément. Donc, on ne peut pas dire que c'est un livre marrant, mais vous avez des petits traits d'humour, parce que l'inspecteur de police, dans ses parenthèses qu'il fait dans ses lettres, il ne peut s'empêcher de
commenter, de critiquer, de croquer les gens autour de lui.
Ouais. Donc, c'est un humour, on va dire, un petit peu plus fin.
Voilà. Et donc, vous, dans le quotidien, vous cherchez un peu la dérision en permanence? Vous êtes quelqu'un qui a besoin de décompresser par l'humour?
Oui, tout le temps. J'ai toujours aimé faire un petit peu le clown à l'école et puis après dans les métiers que j'ai exercés. Parce que j'ai toujours été une personne très heureuse. J'ai toujours été très heureux. Voilà, on a ça dans la famille. C'est les Puertolas, on est comme ça. Mon grand-père était comme ça, ma mère était comme ça, je suis comme ça. On a cette espèce de... On est né heureux. Vous savez, on est un petit peu comme Obélix qui a plus besoin de boire de potions magiques parce qu'il est tombé dedans quand il était petit.
Voilà, elle est cool dans vos veines, la potion magique.
Nous, on est tombé dedans quand on était petit. On est content de notre situation. Même des fois, c'est difficile. J'ai des choses difficiles, comme tout le monde. Mais voilà, il y a une espèce de survie, en fait. Cette survie qui fait que, attends, t'arrives des choses qui sont pas très jolies, t'as des problèmes et tout ça, mais bon, il faut survivre, hein. La vie, c'est la survie, et donc, je trouve que c'est beau. La vie nous réserve toujours des surprises, de jolies surprises, il faut juste attendre, et puis il faut y croire.
Alors, vous m'avez un peu tendu la perche, Romain, en parlant du bonheur et du fait d'être heureux. Est-ce que vous êtes d'accord avec le titre de mon podcast? Est-ce que les gens qui lisent sont plus heureux, Romain?
Oui, alors... Attends, juste pour commencer à répondre à cette question, ça me rappelle, alors, j'ai une très mauvaise mémoire, mais il y a un livre de Michel Houellebecq, son premier livre, qui est sur H.P. Lovecraft, ouais. Dans laquelle il a une phrase qui est merveilleuse, mais je ne me souviens pas de la formule exacte. Mais c'est en ce sens que les gens qui n'ont pas de vie sont les gens qui lisent. Vous voyez, en ce sens que, comme ils n'ont rien à faire dans leur vie, ou comme ils... la vie ne leur donne pas assez de choses, ils sont obligés d'aller chercher une vie dans les livres. Voilà. Michel Houellebecq, il a une très jolie formule pour ça, c'est dommage que je ne puisse pas vous la dire. Donc c'était juste pour amorcer ça. Le fait qu'on pourrait penser que les gens qui lisent sont les gens qui ne sont pas contents de leur vie. Moi, c'est un petit peu ça, en ce sens que la vie réelle, ne me satisfait pas à 100%. J'ai besoin de la vie que je trouve dans la littérature. J'ai besoin d'être quelqu'un d'autre. J'ai besoin de vivre ailleurs. J'ai besoin qu'il m'arrive des choses insensées, qu'il m'arrive des choses qui ne m'arriveraient pas dans la vie normale. Et c'est de là que vient cette vie parallèle qu'est la lecture, qui est une autre forme de vie que les jeunes maintenant trouvent dans les jeux vidéo, que les jeunes trouvent maintenant dans les séries ou dans je sais pas quoi. Mais moi, je suis encore de la vieille école et moi, c'est les livres moi, qui me remplissent et j'ai besoin de ces autres vies, de ces mille autres vies.
Vous pensez que c'est vraiment la vieille école ? Parce que le livre, c'est une cause perdue pour la jeune génération ? Je suis pas forcément d'accord avec vous.
Non, oui, non, moi non plus. Non, mais quand je veux dire de la vieille école...
Vous m'avez dit que vous changez souvent d'avis, donc oui. Là, c'est le cas.
Mais non, mais je ne change pas d'avis de ce que j'ai dit. C'est, pour moi, les livres... Pour moi, vous voyez, les livres, le livre, c'est l'objet parfait. Donc, je ne crois pas aux liseuses, je ne crois pas à ces formats. Tout ça, ça ne va pas rester. Je crois que dans 10 ans, il n'y a plus de liseuses. Par contre, le livre, oui, il l'a prouvé, le livre sera toujours là. Voilà. Et c'est tant mieux, parce que moi, je ne lis que sur des livres. Je suis incapable de lire sur des ordinateurs ou sur des téléphones portables. Donc c'est pour ça que je pense...
Écrire sur un portable, mais pas lire.
Voilà, exactement. Écrire sur un portable, oui, mais pas lire, jamais. Parce que je suis fétichiste aussi, je suis très collectionneur. Donc moi, je n'achète que des premières éditions, il me faut les couvertures. Donc je garde, j'ai des grandes bibliothèques à la maison. C'est vraiment l'objet en tant que tel. Pour moi, compte autant l'objet que le texte qui est gravé. Voilà. Et donc, non, ce n'est pas une cause perdue, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que énormément, voilà, on voit maintenant les jeunes qui sont sur d'autres supports, et c'est vrai qu'on est obligé, hein, les maisons d'édition sont obligées de trouver des stratèges pour essayer de ne pas perdre ces lecteurs-là. Mais voilà, je pense que c'est une affaire de tous. Moi, mes enfants, ils ont 6 et 8 ans, oui. Et mes enfants ont commencé à lire à l'âge de 3 ans. Pourquoi ? Parce qu'ils voient papa toute la journée à la maison.
Avec des livres, ouais.
Exactement. Et donc, ils lisent des livres. Et voilà. Donc, c'est quoi ? C'est juste une éducation. Que font les enfants ? Ben, ils imitent leurs parents. Hein. Voilà, c'est exactement... On peut pas en vouloir un enfant qui fume quand on a fumé devant lui toute sa vie. Voilà. Je veux dire, les enfants imitent ce procédé. Donc,
Alors vous, justement, quand vous êtes petit garçon, qui vous met vos premiers romans entre les mains ? Sont vos parents ?
Oui, c'est mon père. Ouais. Pour moi, la littérature et voilà, ma maman, elle m'achetait les jouets. Et mon père, lui, avait une très grande bibliothèque. C'était quelqu'un de très très érudit. Et c'est lui qui me offrait des livres tout le temps pour ma fête, pour la Saint-Nicolas, parce que mon père était strasbourgeois. Donc voilà, c'est quelque chose qui se faisait là-bas. Pour les Noëls et tout ça. Même à tel point, des fois, je voulais d'autres choses, mais non, papa, c'était des livres. Et je suis très heureux parce que voilà, il m'achetait des livres en plus utiles. Il y avait énormément à l'époque de comment ça marche, ça s'appelait.
Ah oui.
Ouais. Ouais. De pourquoi, de comment ça marche. Comment ça marche une montre, comment ça marche une caméra de télévision, comment ça marche un bateau. Et ça, c'était super parce que ça, c'était de la divulgation et vous appreniez beaucoup de choses. Voilà. Donc c'est lui qui m'a mis mes premiers Jules Verne dans les mains. Et quand j'allais chez lui, je lisais tout le temps. Et c'est lui qui m'a fait entrer, qui m'a fait découvrir ce monde parallèle dans lequel je m'évadais. J'étais fils unique et donc je passais mes journées à jouer et à lire. Voilà. Et quand j'allais faire les courses avec ma maman au supermarché, ben, elle me laissait à l'entrée, là où il y a les livres. Hein, et puis elle savait qu'elle pouvait faire les courses tranquillement et revenir une heure après. Et, j'étais toujours là en train de lire les bouquins.
Est-ce qu'à l'époque, il y a la petite graine du futur écrivain qui est plantée en vous, là ? Ou est-ce que ça va venir beaucoup plus tard, ça ?
Alors, j'ai commencé à écrire très tôt, à l'âge de 7 ans.
Ouais.
Je faisais des petites BD. J'ai jamais su dessiner, hein, mais c'était juste pour véhiculer une idée, on va dire, pour illustrer une idée, une histoire. Et j'écrivais des poèmes... Et puis j'écrivais des petites histoires. Alors je copiais énormément à l'époque. Hein, voilà, je pense que c'est normal. Comme je disais avant, on agit par imitation. Et je lisais Agatha Christie. Bah, je copiais du Agatha Christie. Je changeais juste le nom des personnages. Mais c'était presque les mêmes choses. Jean Giono aussi. Je me rappelle avoir fait des imitations de Jean Giono dans le même style.
Et vos premiers poèmes, ça racontait quoi ?
Oula, les poèmes ?
Ouais.
Oh, je ne sais pas.
Je ne sais plus.
Non, je ne m'en rappelle plus. Non. Et puis j'en ai plus. J'ai retrouvé des cahiers d'histoire, ouais, ça ouais. Je les ai, de petits romans. J'ai retrouvé 5-6 cahiers, mais des poèmes, j'ai plus aucune trace. Mais j'écrivais énormément dans les marges. Quand je prenais le cours, en fait, à l'école et tout ça, j'écrivais dans les marges des poèmes, je faisais des dessins, je faisais beaucoup. J'ai toujours eu ce truc de créer, en fait, et de l'imagination. Donc, je faisais ça. Et ensuite, Je suis passé à la musique. À l'âge de 14 ans, j'ai découvert la musique et j'ai commencé à créer, à composer de la musique. Voilà. Et il y a toujours eu cette forme de raconter des histoires. Après, je suis passé au format de court-métrage aussi. Donc, je faisais des films, des petits films. Et puis après, je suis revenu au roman, mais là, cette fois-ci, en écrivant de vrais romans. Donc, en fait, il y a toujours eu la nécessité de raconter quelque chose, de quelque manière que ce soit, sauf la peinture. J'en fais maintenant un peu et je suis très mécontent. Je suis pas doué.
Il faut persévérer. Ouais. Et tous ces métiers que vous avez fait, est-ce que c'était un passage obligé pour arriver à celui d'écrivain? Est-ce que d'une certaine manière, ils ont nourri celui d'écrivain que vous faites aujourd'hui? Pourquoi tous ces jobs différents, même si ça nourrit un peu votre légende aujourd'hui? Pourquoi ne pas vous être mis à tenter de publier, je sais pas, tout de suite, quoi, dès 20 ans, comme certains le font?
Parce que j'ai commencé à écrire de vrais romans, je vous disais, quand je parle de vrais romans, c'est-à-dire des romans de plus de 200 pages avec une histoire et tout ça. Avant, j'écrivais des petits trucs de 10 pages, de 20 pages. Et j'ai commencé à envoyer à des maisons d'édition. Pour le coup, je vivais en Espagne, donc j'ai envoyé mes premiers manuscrits, je les ai écrits en espagnol, et je les envoyais à des maisons d'édition espagnoles. J'ai eu mes premières lettres de refus. Mais oui, comme vous dites, toute mon expérience professionnelle a nourri mes romans. Là, mon nouveau roman, La police des fleurs, est nourri de mon expérience dans la police, puisqu'on a vraiment des actes de procédure qui sont des actes de procédure pénale, hein, qui sont judiciaires. Et donc ça, c'est vraiment de la police pure. Donc oui, ça vient de là. Et puis des expériences de vie autres aussi que professionnelles. Donc ça déteint forcément.
Est-ce qu'on peut faire un top 5 des métiers que vous avez fait avant écrivain?
Allez. Un top 5. Bon, alors je suis capitaine de police. Voilà, ouais. Je suis en congé, mais je suis capitaine de police, donc un policier.
Donc numéro 1.
Voilà, on va dire numéro 1 parce que je le suis toujours. Ensuite, j'ai beaucoup travaillé dans l'aviation. J'ai travaillé à la direction nationale de la navigation aérienne en Espagne, dans le contrôle aérien. J'ai été steward de terre, chef avion dans des compagnies aériennes à Barcelone. J'ai été professeur de français et d'espagnol.
Ça, c'est top 3, alors.
Ouais. Non, là, on en a 4.
On en a 4, déjà. Oui, c'est vrai. Ouais.
Professeur d'espagnol et français, on va mettre traducteur-interprète dedans. Et puis, il y a eu DJ et compositeur de rap. J'étais dans plusieurs groupes de rap à l'époque.
J'ai vu des vidéos sur YouTube, Romain.
Ça a été plus tard. Les vidéos sur YouTube sont plus
tard. Après. Mais vous rappelez dans les vidéos?
Oui, mais là, c'est plus pour rigoler. À l'époque, c'est pas moi qui rappe et je faisais les musiques et tout ça. C'était plus sérieux, on va dire.
D'accord.
Mais maintenant, là, j'ai repris les platines, le scratch et tout. C'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Le turntablisme, comme on dit.
Capitaine de police, pourquoi? Pourquoi vous voulez faire ce métier?
Quand j'étais jeune, je voulais être inspecteur de police.
C'est ce que vous vouliez, ouais.
Parce que là aussi, j'étais influencé par Columbo à la télé, par Agatha Christie, Hercule Poirot, tout ça, et par Starsky Hutch. J'aimais ce mélange d'enquête policière et d'action, on va dire. Donc je voulais faire ça. Finalement, je suis rentré à la police très tard. Je suis rentré à 33 ans.
Bah oui, c'est ça. À la limite. C'est étonnant, ouais.
Mais parce que j'ai fait plein de choses avant. Mais parce que je suis un passionné, en fait. Quand je me passionne pour quelque chose, c'est-à-dire que je ne fais que les choses qui me passionnent, et quand je me passionne, moi, je m'y mets à 1000%. C'est-à-dire que si on demande ça pour un concours d'entrée dans un quelconque métier, je fais 1000 fois plus. Et donc, finalement, j'en fais vite le tour. C'est-à-dire que tous les métiers que j'ai faits, au bout de 2 ans, j'avais compris comment ça marchait, ça y est. J'avais vu, et ok, je voulais passer à autre chose, en fait. Je ne me voyais pas faire ça toute ma vie. Et c'est pour ça que j'ai changé énormément de métier. Voilà. Parce que je suis quelqu'un qui, une fois qu'il a vu comment ça marchait, il est très curieux de voir comment ça fonctionne, et donc il s'en va.
Ça veut dire que... Donc vous êtes passé au métier d'écrivain. D'abord, vous pensez que la police, vous allez retourner à un moment donné?
Non, je ne pense pas. Je fais mes rapports de prolongation. J'ai droit à 10 ans dans la police. Donc en 2024, il faudra que je prenne une décision qui est de démissionner ou de réintégrer mon service. Mais non, si tout continue à bien aller comme maintenant, il n'y a pas de raison pour que je revienne à la police.
Est-ce que le roman, vous pourriez vous enlacer alors et vous dire à un moment donné, j'en ai fait le tour? Ou alors est-ce que c'est justement le type de métier dont on ne fait jamais vraiment le tour?
Oui, écoutez, alors je ne vais pas dire Fontaine, comme on dit, parce que c'est vrai que moi, j'ai jamais... aussi bien demain, hop là, j'ai un truc. Et... mais oui, pour moi, le métier d'écrivain, pour moi, est quelque chose de parfait parce que il me permet de changer de métier tout le temps, selon le personnage que je mets en écrit dans le livre. Bien, je peux devenir demain médecin, je peux devenir pompier, je peux devenir chômeur, je peux devenir ce que je veux en fait. Et donc pour ça, c'est un métier parfait. Et puis une autre facette de ce métier que je trouve parfait, c'est qu'on peut l'exercer. On n'attend pas la retraite. Vous voyez, moi j'ai énormément de potes et tout ça qui attendent déjà la retraite avec impatience à 43 ans. Mais bon, je veux dire, moi non, parce que je fais un métier qui me plaît. Donc je veux le faire le plus longtemps possible. Et j'espère, en écrivant, il n'y a pas de retraite en fait. Vous écrivez jusqu'à ce que vous ne puissiez plus parce que vous n'avez plus les facultés mentales.
Ou tenir le stylo.
Voilà, exactement.
Ou taper le clavier.
Parce que vous mourrez. Enfin, ouais, je veux dire, ouais. Voilà. Donc c'est jusqu'à la fin, vous voyez. On a un joli exemple hein, qui est M. Jean d'Ormesson qui illustre bien ça, c'est-à-dire que jusqu'au dernier moment, il a écrit, il a fait des livres. Et voilà, et donc c'est ça que je trouve beau dans cette profession.
Alors, est-ce que vous lisez toujours beaucoup, Romain?
Ouais.
Tout le temps, tous les jours?
Ouais, je lis tous les jours. J'écris pas tous les jours. Mais je lis vraiment presque tous les jours. J'ai toujours un livre, c'est-à-dire que je ne sors jamais sans un livre. Voilà. Et j'ai plusieurs livres dans la maison. J'ai le livre qui est dans les toilettes, ouais. Le livre que je lis sur la terrasse, j'ai le livre que je lis dans le salon. Voilà, donc je lis...
Et celui près du lit.
Une dizaine de livres... Bon. Non, je n'ai pas de livre près du lit, non. Je ne lis pas dans le lit. Non. Donc j'ai une dizaine de livres que je lis en même temps.
Ouais. Je pense que certains qui nous écoutent se reconnaîtront là-dedans.
Oui, hein? J'imagine, ouais. il faut avoir la faculté de pouvoir mettre des compartiments et de dire, OK, ça, c'est cette histoire. Et tout ça, si vous avez ça, ben, c'est bon, vous pouvez lire plusieurs livres à la
comme
fois.
C'est comme si on regardait plusieurs séries en même temps sur Netflix.
Exactement, oui.
Qu'on était à l'épisode 2 de la saison 3 de l'un, à l'épisode 7 de la saison 6 de l'autre.
C'est
un peu ça, hein, ouais. C'est un peu comme ça. Et est-ce que vous la série télévisée, la télévision, Netflix, tout ça, ça fait partie de votre quotidien aussi? Est-ce que ça concurrence le livre?
Ouais, non. Alors moi, pour pas du tout, je n'aime pas les séries. Mais
on en a enfin trouvé un.
Ouais. mais c'est pas du snobisme ou quoi. Ouais. C'est que je n'accroche pas aux séries. Rien ne m'intéresse. C'est-à-dire que et les copains essayent. Hein. Ils me disent ça. Par exemple, Game of Thrones. Je me rappelle le matraquage que j'ai eu. Vas-y, Romain, faut que tu regardes. Ok, ils m'avaient filé des CD
les
à
coffrets,
l'époque.
Les coffrets, ouais.
J'avais regardé le premier. J'avais dit non, mais j'ai pas aimé le premier épisode et ça. Non, mais c'est normal. Il faut que tu regardes le 2 et tout ça.
Ouais.
J'avais regardé le 2. Ils m'ont dit. J'ai dit, non, j'accroche pas, j'aime pas. Il faut que tu regardes le 3, c'est au 3 que les gens... J'ai dit, tu vas m'avoir longtemps comme ça. Non, donc j'ai abandonné. Et toutes les séries dont j'ai regardé le premier épisode, je n'ai pas aimé. Il n'y a qu'une série qui m'a accroché, c'est Walking Dead.
Ah ouais, j'adorais cette série.
Parce que j'adore les choses qui sont post-apocalyptiques. Alors là, pour le coup, c'est très littéraire, parce que moi, ça me rappelle Malville de Robert Merle, un de mes livres préférés. Qui est post-apocalyptique et là il y a des zombies en plus, mais en fait c'est pas les zombies les plus importants, les zombies ils les tuent avec un coup de couteau, enfin c'est vite fait, c'est les humains en fait, c'est vachement plus dangereux l'être humain, c'est là dans cette série
on voit ce que l'être humain redeviendrait si effectivement toute société disparaissait.
Donc, c'est pas les zombies, le problème.
Bien sûr, mais cette série a longtemps été géniale.
Ouais. Donc je continue à la regarder. C'est la seule qui m'a accroché, et donc je ne supporte aucune autre série. Voilà. Alors peut-être qu'un jour il y en aura une qui me plaira, mais pour l'instant non. À chaque fois, après le premier épisode, je vais pas vers le deuxième.
Cinéma, c'est pareil. Le film Le Fakir, ça vous a plu?
Oui, le film du Fakir m'a beaucoup plu parce que le message, même s'il y a des changements par rapport au livre, le message que j'ai voulu passer moi dans le livre passe parfaitement dans le film. Il y a beaucoup de positivisme, il y a beaucoup d'optimisme, d'espérance. Donc, oui, moi je trouve que c'est un film réussi. C'est pas parce que je suis co-scénariste. Puisque à la fin, il y a beaucoup de choses qui ont été changées que j'avais écrites. Mais c'est parce que c'est un film duquel on sort et on a envie de croire aux êtres humains, justement.
chose qu'on ne fait pas quand on allume la télévision, quand on regarde les actualités, je veux dire. Moi, ça fait des années que je ne regarde plus d'actualités. Et donc là, voilà.
Vous informez comment, alors ?
Oh, ben, je ne m'informe pas.
C'est vrai ?
Ouais, on m'informe. Je tombe toujours sur quelqu'un... Vous voyez, je n'étais même pas au courant pour le premier jour, pour Jacques Chirac. Je voyais Jacques Chirac, je suis arrivé à Paris, parce que moi, j'habite au fin fond de l'Espagne, donc je ne suis pas très au courant. Et j'arrive à Paris, et là, je vois des photos de Chirac partout. Ouais. Mais aucune qui dit qu'il est mort, en fait. Vous voyez ?
Ouais.
Généralement, on dit au revoir, chichi, ou ça aurait été au revoir, Chirac, ou... Là, il n'y a rien. Si vous regardez, c'est très intéressant, hein. Regardez les unes qu'il y a eu, il n'y en a aucune qui vous dit que Chirac est mort.
Et c'est parce que nous, les journalistes, on est sans mots devant ce... Bah... Voilà, on ne veut pas faire le même titre que les autres.
Donc je me suis dit, qu'est-ce qu'il a fait ? Et j'ai appris en fin de journée qu'effectivement, il était décédé. Mais voilà, mais c'est pour vous dire à quel point... Je suis un petit peu loin de tout, je suis un peu dans ma
vie. Vous feriez un beau personnage de roman, hein. Vous n'aimez pas les séries, vous êtes le dernier homme à avoir découvert la mort de Jacques Chirac.
C'est pas mal, le dernier homme. Hein, ouais.
Vous seriez un beau personnage de roman, Romain, vous pensez?
Ouais, peut-être. Et pourtant, je suis pas... On voit des gens qui sont beaucoup plus paumés que moi, je veux dire, hein, des gens qui vivent dans l'espace. Moi, je suis quand même très sociable et très... Ouais, je ne m'enferme pas, vous savez. Je ne vis pas dans une grotte et tout ça. Mais ce qu'il y a, c'est que je n'ai pas la curiosité de regarder les infos. Ça ne m'intéresse pas. C'est que des choses de corruption, de politique, de trucs qui me... Donc, voilà. Donc, je ne regarde pas. Donc, je m'informe des choses les plus importantes, on va dire, puisque les choses les plus importantes transpirent toujours. Et je vais forcément en entendre parler.
Mais on s'en nourrit quand même de l'actualité dans les romans, dans la fiction. C'est quand même une matière, non ?
Oui, c'est une matière, mais si vous regardez Ma police des fleurs, elle se passe en 1961, donc on n'est plus dans l'actualité immédiate,
ouais.
Et on est à la campagne, on est vraiment dans un huis clos, dans lequel vous voyez, voilà, on parle de la fin de la guerre, des choses comme ça, évidemment, mais sinon, il n'y a pas cette espèce de transpiration du monde sur ce village, voilà, on est vraiment dans une bulle, on va dire.
Mais justement, donc ça, c'est un des propres du livre. Et quand on va lire celui-là en particulier, on est transporté ailleurs, à une autre époque, avec des codes, un mode de fonctionnement de la société, par la force des choses, très différent de celui qu'on a aujourd'hui. On se coupe vraiment du monde en lisant La police des fleurs, des arbres et des forêts, non ?
Ah oui, on se coupe du monde, et on vit cette enquête de police au rythme de la campagne, même s'il y a énormément de suspense, et s'il y a ce coup de théâtre final
qu'on va pas spoiler pour
exactement, mais je l'avertis au début, je dis, vous allez vous faire avoir. Je suis très content parce que pour l'instant, tous les retours sont de personnes qui sont tombées dans le panneau, qui se sont fait avoir par le twist final, qui était pour moi très jouissif de d'écrire le roman en sachant vers où j'amenais le lecteur, en sachant la fin. C'est la première fois que je connais la fin avant de me lancer dans l'écriture d'un livre. Et donc voilà, pour le coup, c'était vraiment très jouissif de jouer avec le lecteur et de lui dire « Attends, tu vas voir, attention, sois bien attentif parce que la fin, tu vas être soufflé. »
On est scotché. La question me trotte dans la tête depuis le début, mais vous m'avez dit que vous êtes allé à Puertolas, le village de Puertolas.
Ouais.
Mais vous avez fait exprès d'aller là ou vous êtes retrouvé par hasard ?
Non, ça
c'est une ville ou c'est un village que vous avez acheté avec les...
Non, pas du tout. C'est ma femme qui m'a fait la surprise, on va dire. Enfin,
d'accord.
Voilà. Et on voulait aller pendant l'été un peu dans le nord parce que j'habite à Malaga, il fait très chaud là-bas. Ouais. Donc l'été, on essaye de monter. Donc on était dans le nord et puis c'est elle qui avait prévu un petit passage par Puertolas. C'est vachement sympa.
Vous savez que là maintenant, quand ma femme va écouter ce podcast, elle va chercher s'il y a un Vermelin. Ah, sur la carte pour m'emmener dans ce village. J'espère que c'est pas au fin fond de l'Autriche. Très glauque. Peut-être un truc comme ça, ça serait un peu... Je suis pas sûr que Vermelin, ça soit aussi ensoleillé que Puertolas.
Oui, non. Parce que du coup, ce sera forcément en France.
Ouais.
Vermelin, ça fait pas très espagnol. Donc, on serait déjà au-dessus de l'Espagne.
Ou alors, elle m'emmène Vermelin. Si je peux, ça peut être ça aussi. pas mal le jeu de mots, Jérôme. Romain, pour terminer, est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de vos lectures justement du moment ? Alors, parmi tous les livres que vous avez commencé, est-ce qu'il y en a un ou deux là que vous avez un peu plus envie de terminer que les autres ?
Quand j'ai envie de les terminer, je les termine généralement très rapidement. Donc je viens d'en commencer plusieurs, mais sinon là, je lis. J'aime beaucoup Uraki Murakami. Je suis vraiment fan de cet écrivain japonais. Il a vraiment un monde à lui. C'est un monde du quotidien, mais avec des petites incursions de fantastique, de surnaturel.
Vous avez lu Le meurtre du commandeur, là ?
Bien sûr.
Ouais, c'est bien.
Les deux tomes.
Ouais.
Et j'ai beaucoup aimé. Bon, dans mes préférés, il y a évidemment 1Q84, la trilogie. Et il y a La Recherche. Alors, je ne sais pas trop les titres en français, parce que je le lis en espagnol, pour le coup. À la recherche du. Il recherche un mouton étoilé, en fait.
Ouais,
donc,
ouais.
C'est pas le titre en français.
J'ai retrouvé le titre. Ouais.
Et donc, voilà, j'aime beaucoup Kumo Akami. Donc, là, je suis en train d'en lire un qui s'appelle, je vous traduis de l'espagnol, Danse, Danse, Danse. Je sais pas comment. Quel est le titre en français. Et là, je viens de commencer le nouveau de Gilles Le Gardinier, là, qui m'a l'air pas mal. Et puis, j'ai quoi en ce moment J'en ai plusieurs, donc je peux pas vous dire. Il faut que je les revoie. Ils sont dans les pièces de chez moi, de la maison.
La rentrée littéraire, c'est
la une caravane du pape. Ouais. Pardon. Ouais.
Voilà. La rentrée littéraire, vous guettez ce qui sort. Ça vous intrigue un peu. Vous attendez un peu que la mousse retombe pour voir ce qui est vraiment bien.
Oui, mais je guette, mais pas pour tout ce qu'implique la rentrée littéraire. Je guette simplement parce que je guette de temps en temps. Je vais sur des sites pour voir ce qu'il y a. Vu que je vous ai dit, je ne vis pas en France, donc voilà, je regarde ce qui se fait. Mais surtout que la rentrée littéraire, on en a plein. Donc du coup, vous voyez, c'est comme le trésor. Bon, il va falloir trier dedans, parce qu'il y a plein de choses qu'on n'aime pas, et plein de choses qu'on aime, donc il faut chercher dedans. Donc c'est pour ça que j'aime bien la rentrée littéraire, parce qu'il y a plus de choix, on va dire, d'un coup. Voilà. Donc après, je fais mes petites courses. Dès que j'arrive en France, je repars avec des valises pleines.
Ok, ben merci beaucoup Romain pour ce petit moment.
Merci
autour
à vous.
De votre nouveau livre La police des fleurs, des arbres et des forêts chez Albin Michel. On a parlé de la lecture, on a parlé de plein de choses, des séries, des choses que vous aimez, des choses que vous aimez moins, de vous, de votre biographie aussi un peu étonnante. Je vous remercie et puis je vous dis à bientôt.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Merci, au revoir.
C'est la fin de ce podcast, merci de l'avoir suivi. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Des gens qui lisent sont plus heureux.